Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile régénéré de Dieu. L'évangile, je voudrais dire ceci, l'évangile du règne de Dieu. C'est la série donc de l'évangile du règne de Dieu. Et le titre aujourd'hui, numéro 3, c'est le Christ vivant. En effet, Jésus est le Fils de l'homme, l'homme par excellence. Qu'est-ce que la gloire du Fils de Dieu? La gloire de la terre. C'est ce qui la constitue terre, la gloire du soleil. C'est ce qui le constitue soleil, la gloire du Fils de Dieu venu en chair. C'est ce qui le constitue homme. En Christ apparaît donc pour la première fois la gloire de l'homme régénéré, justifié et sauvé. L'apôtre Jean dit dans son épître, « Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. » Par là, il veut dire que Jésus se trouve à présent dans l'humanité et veut descendre parmi les hommes. Il vous faut en appeler à ce Jésus dans l'humanité, à ce Jésus venu en chair, comme au seul qui ait raison. C'est lui seul qui a raison et qui pour le monde entier conserve son bon droit. Qui n'agit pas ainsi, fait fausse route et ne reçoit pas les bienfaits du royaume de Dieu. Célébrons donc la grande bonté de Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus dans notre chair. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pénétré dans notre impureté et dans notre péché, si étant saint, il avait dû se séparer des profanes, où en serions-nous? Chantons donc aussi les louanges des millénaires du passé. Dieu a pénétré dans tous les péchés du monde. Il a pris sur lui toutes les barbaries des temps passés, tout l'orgueil, tout le dérèglement du monde. Dieu s'est servi d'un David qui pourtant est tombé, vous le savez, dans la fange. Dieu s'est servi d'un Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Il s'est servi des Israélites pécheurs, des Grecs, des Romains. Dieu a pénétré dans tous les péchés, si bien qu'il se trouve aujourd'hui des gens pour le critiquer, comme s'il était lui-même un pécheur, à leur gré, un Dieu vraiment juste, n'aurait donc pas pu bénir ainsi les hommes qui sont pleins de péchés. Dieu a pris sur lui l'opprobre de notre folie. Il a pris sur lui toutes les horreurs de la guerre, de toutes les impiétés, de tous les mensonges de l'histoire. Dieu est resté au milieu de nous parce que, une fois pour toutes, il aime les hommes et qu'il entend les sortir de leurs péchés en faisant leur éducation. Il faut que par son assistance, il se développe à la lumière de la vérité. C'est comme fils d'un tel Père que Jésus s'est incarné. Il a pénétré dans ce que l'humanité renfermait de plus affreux. Il a dirigé, par son action imminente, les pires des époques dites chrétiennes. Quelle époque que celle des invasions où les barbares adoptèrent le christianisme et mirent à feu et à sang les contrées qu'il traversait ou celles des croisades. Quelle époque barbare que celle où, après la réforme, la guerre de 30 ans survint. Jésus, ô mes amis, que de crimes il a été obligé d'endosser au cours des siècles. Dans bien des cas où vous aviez mal agi, il est intervenu pour ne pas vous lâcher. Si le Seigneur Jésus vous avait laissé suivre entièrement vos voies, vous ne seriez pas ici. Jésus s'est incarné. Aujourd'hui encore, il s'incarne. Il prend sur lui l'opprobre et le mensonge. Dans les errements de l'Église chrétienne, il a toujours gardé le fil conducteur. Il a lutté silencieusement pour l'honneur de Dieu, afin que, de toutes ses erreurs, il sortît quelque chose de vrai. Si nous pouvons aujourd'hui glorifier le saint nom de Jésus, s'il élève bien haut l'étendard du royaume de Dieu, étant le seul Seigneur au ciel, sur la terre et sous la terre, nous le devons à son incarnation. Mais il est toujours resté le saint. Lorsqu'il vivait avec ses disciples, il allait partout avec eux, même chez les péagers et chez les pécheurs. Et voici qui meurt. Oui, il est parti. Et après quoi? Il ressuscite. Alléluia. Il ne sera pas celui qui abandonne les hommes. Oh non. Toutefois, le ressuscité est autre qu'il n'était auparavant. Ses disciples le revoient, mais il y a un abîme entre lui et eux. Il est beaucoup trop saint. C'est ainsi que Jésus juge le monde. Il le juge en se retirant de lui. Il nous faut en prendre notre parti. Persévérons donc dans la communion de Jésus-Christ, mais en maintenant, oui, nous devons maintenir nos cœurs très hauts. Il reviendra pour frayer une voie sacrée vers son Père qui est au ciel. Et alors, il faudra le suivre. Jésus ne suit plus comme autrefois le chemin de la croix où il lui faut porter tous les opprobres. Il va frayer la voie et il faudra renoncer à soi-même pour le suivre. On verra bien alors qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Alors s'ouvriront aux fidèles les portes aujourd'hui fermées. Tel est donc le jugement que Jésus exercera sur le monde. Et c'est ainsi qu'il le guérira. Il a acquis une puissance énorme en vivant si longtemps parmi les hommes et en supportant tout. Il a si bien pris en main toutes choses, même dans l'ordre de la chair, que lorsqu'il apparaîtra comme le ressuscité, la chair sera anéantie et ce sera notre salut. Il y a autour des hommes une sorte de brouillard. Jésus a beau venir, l'ombre ne se dissipe pas. Aussi vient-il un temps où Jésus sort de ce brouillard, c'est à cause de nos péchés et de notre tourment. Réjouissez-vous donc si Jésus fraye la voie qui conduit au Père et il nous donne la force de le suivre. En apparence, cette époque sera bien dure, mais intérieurement, Tout deviendra plus facile quand viendra le temps de la résurrection de Jésus-Christ et que la lumière illuminera le royaume des cieux. La voie qui nous conduit au Père doit être frayée, qu'il en coûte ou non de la souffrance. Et le Père veut, il veut restaurer en nous l'humanité qui est en lui. Il veut nous arracher à nous-mêmes et faire de nous des êtres tout de clarté. Oui, Christ dans la chair, c'est le plus fort démenti qui puisse être infligé au péché qui réside dans la chair. Christ dans la chair, c'est la justice de Dieu opposée à notre justice. C'est la lutte de la vie contre la mort. Christ n'est pas venu sur la terre apporter la paix, mais le glaive. Notre paix consiste à prendre part au combat, tout comme un soldat est en paix quand il prend part à la bataille et non quand il dort sous la tente. Christ dans la chair, cela signifie que de nouveau, nous nous sentons véritablement hommes. Si Christ est dans la chair, il n'est pas vrai que nous appartenions au péché. Le péché qui habite dans ma chair doit en sortir. Je ne serai vraiment un homme que si Dieu habite par son Saint-Esprit dans ma chair. Cette parole, Christ dans la chair, nous inspire de l'amour pour tous les hommes, pour toute la création, car toute chair appartient à Dieu. L'erreur peut s'insinuer dans tous les domaines de la création, mais si Jésus est dans la chair, toute chair devra finalement, faire l'expérience de Jésus. Sur toutes les races des hommes, Dieu se lèvera comme le soleil. Jésus n'engage pas le combat contre la chair, mais dans la chair, il engage le combat contre les ténèbres et contre le péché. En nous, ce combat a commencé. Mais l'individu ne sera pas achevé avant que la totalité du genre humain ait appris que Christ s'est incarné et qu'il est celui qui, au nom de Dieu, remporte la victoire. Chers amis, par Jésus, une voie nouvelle s'ouvre dans le chaos de notre existence. Cette voie ne dépend pas de notre naissance ni de notre éducation, mais du don de Dieu, de son apparition en son Fils, lequel, étant la plus haute personnalité divine, peut intervenir également en faveur de tous les hommes. Qu'on n'ôte pas au Sauveur cette filialité divine. Dieu a fait l'homme à son image. S'il n'est pas possible que Jésus soit le Fils de Dieu, Dieu n'est pas notre Dieu. Il est certainement un Dieu avec un petit d, mais non pas notre Dieu. Mais s'il est notre Dieu, il peut nous communiquer en son Fils et par son Fils le divin, qui nous met sur une voie nouvelle. Jésus n'est pas un fondateur de religion. Ce sont les hommes qui ont fait de lui un fondateur de religion. Il est un dispensateur de vie. Gloire soit rendue à son saint nom. Chers amis, est-il encore possible aujourd'hui d'apporter aux hommes le véritable évangile? Est-il encore possible de faire dans la communion du Christ l'expérience de l'homme nouveau? La plupart ont renoncé à cet espoir. Mais quand le monde entier avait cessé de croire à l'homme nouveau, formé en Christ, nous devrions y croire. Christ veut créer des hommes ici sur la terre. Mourir en paix, on le pouvait avant lui. Avant lui, on pouvait avoir une consolation dans la vie et dans la mort. Mais Jésus est venu pour créer des hommes nouveaux, remplis des forces de la vie éternelle, ayant en eux l'amour de Dieu qui est la lumière de la vérité et la lumière de la vie. Si nous, chrétiens, nous étions restés fidèles dès le début au Seigneur qui est l'homme par excellence, eh bien nous aurions depuis longtemps d'autres formes sociales qui seraient meilleures et plus vraies. Et c'est pourquoi il faut revêtir l'homme nouveau qui est renouvelé à l'image de celui qui l'a créé. La vie de l'humanité trouve en Jésus son représentant. Jésus vit. La plupart des hommes ne vivent pas à proprement parler. Beaucoup sont là, d'autres vivent mal. Ils ne sont pas vrais dans ce qu'ils sont. Ils sont faussement heureux et faussement tristes. Ils sont faussement pauvres, ils sont faussement pieux, ils sont même faussement saints. Quand un homme est franchement ce qu'il est, il a une action bienfaisante même si sa manière est quelque peu rude. Le Sauveur peut dire, « En moi, vous possédez la vie. » Et ceci est vivifiant, car de voir la vie donne la force pour vivre. Si un malade voit un médecin plein de vie et d'assurance, cela peut l'aider. C'est ainsi que Jésus peut dire, « Oui, je vis, regardez-moi bien, contemplez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, car vous aussi, vous devez vivre, et c'est pour cela que je suis dans le monde. » La vie, elle aussi, a quelque chose de contagieux. Les bacilles de la maladie se propagent, surtout de nos jours. Les miracles de la vie se propagent également, surtout les miracles de la vie de l'Esprit-Saint. En ceci, une personnalité comme Jésus bouleverse le monde. C'est pour cela qu'il s'appelle la lumière du monde. Il l'est par sa personne. Au contact de sa vie, une contagion nous gagne. Laissez-vous donc prendre par cette contagion. Vous aussi, soyez de ceux qui vivent. Jésus n'exige pas de nous un travail de pensée. Il émane de lui une force créatrice. Jésus a pénétré partout en restant toujours ce qu'il était. Chez les péagers et les pharisiens, il est resté le même. Il avait la vie en lui. La société n'a pas agi sur lui par contagion. C'est lui qui a voulu agir par contagion sur elle. Nous devons être nous aussi de ces vivants qui peuvent s'exposer au contact du monde. Comme tels, nous pouvons juger de tout, discerner le vrai du faux. Celui qui vit voit la vérité, il voit de loin s'il peut ou non avoir confiance. Il a de bons yeux et l'ouïe fine, il discerne aisément ce qui ne mène à rien et n'y prend point part. Donc il fait une distinction entre Dieu et les choses. notre théologie n'impose pas. En religion, dans la véritable recherche de Dieu, on ne peut faire l'impression que si l'on vit. Les gens disent alors, il vit celui-là. Voyez comment il vit. Alors on a le droit de se mêler de tout et de rendre partout son témoignage. Ceci ne va pas assurément sans une certaine abnégation. Nous devons laisser tout ce qui n'a de vie que l'apparence des mœurs, des pratiques, des institutions dont les hommes font le plus grand cas. Mais ce n'est pas un renoncement monacal. Ce n'est pas en étant des moines dans une cellule loin de toute tentation. Le renoncement de Jésus au monde n'implique pas qu'il le rejette comme mauvais. Pas du tout. Il dit simplement, « Toi, tu ne peux pas me donner la vie. » Même l'Écriture sainte, dit-il, ne peut pas vous donner la vie. Elle ne fait que rendre témoignage de moi. Mais cherchez-moi dans l'Écriture sainte et vous trouverez la vie. Quiconque peut renoncer à soi dans ce sens trouve la vie qui est en Jésus et devient lui-même un vivant. Chers amis, Jésus est le serviteur de Dieu qui ne crie ni n'appelle et dont la voix ne se fait pas entendre dans les rues. Il ne peut point, oui, il ne prend point de part, jamais, à la lutte pour l'existence. Oh non, car là où les hommes se haïssent, se condamnent, se disputent la première place, eh bien, on ne rencontre pas le serviteur de Dieu. Il aime mieux abandonner sa vie pour sauver celle des autres que de la devoir au sang, à la haine et à la condamnation. Il s'agit donc de respecter tout ce qui existe. Aussi faut-il que le serviteur soit doux et humble. Qui passe brutalement par le monde, écrase des hommes, Jésus va doucement par le monde pour n'écraser aucun enfant des hommes, car en chacun, il y a quelque chose de Dieu qui doit être sauvé. Il a été promis à ce serviteur qu'il deviendrait la lumière des peuples. À lui de faire sortir les captifs de leur prison, à lui de faire sortir du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Aujourd'hui encore, on attend le Sauveur. Sa voix retentira de nouveau sur la terre. Un temps viendra où le serviteur de Dieu prêchera de nouveau l'Évangile dans cet esprit. Et il faut que cet esprit soit d'abord celui des gens qui le représentent sur la terre. Si quelqu'un a au cœur le royaume de Dieu, s'il porte dans son cœur les peuples et non pas le sien seulement, alors les races et non pas uniquement sa famille, les hommes et non pas seulement soi-même, il comprendra Jésus-Christ, le serviteur auquel le monde est promis. Jésus vient dans notre monde comme l'agneau, c'est-à-dire dans une soumission absolue au gouvernement de Dieu jusqu'à la mort. L'agneau, c'est l'absolu renoncement à toute action des hommes. L'agneau ouvre les sceaux du livre. Seule une soumission absolue à Dieu comporte un renoncement à tout ce qui est humain et procure le salut. au ciel, l'agneau est acclamé. C'est donc lui qui a trouvé le moyen de tout mettre en ordre, en espérance, et il voit déjà tous les êtres vivants qui sont ramenés à Dieu. Toutes les créatures célestes s'écrient d'avance, « Dieu soit loué, le bien triomphe, gloire soit donc rendue à l'agneau. » Le radicalisme de Jésus, qui remet tout entre les mains de son Père, cette attitude d'agneau qu'il observe, aimant mieux mourir pour y rester fidèle que de remuer le petit doigt, tout cela nous est devenu étranger. Les héros que le christianisme a suscité si souvent ne brisent aucun sceau. Jésus a besoin de femmes et d'hommes qui aussi intégralement que lui remettent à cause la cause de la vie, de leur vie, aux mains de Dieu. C'est un fait caractéristique que le Vendredi Saint, on court en masse aux églises, des centaines, des milliers de gens qui, à part cela, n'y vont jamais, s'y rendent ce jour-là. Hors d'ordinaire, ils se moquent des obligations religieuses, mais le Vendredi Saint, ils viennent, il y a là un signe. Le crucifié, sans qu'il le sache vraiment, il est tout de même leur espérance. Ne raillez donc plus ces chrétiens du Vendredi Saint. Grâce à Dieu, il nous reste ce signe de l'attirance que le Sauveur exerce sur le monde, parce que en lui, le Père a aimé le monde. Ce monde que l'on dit perdu parce que son esprit s'égare. Le monde ne peut s'empêcher de pousser toujours de nouveaux soupirs. Et où vas-tu adresser tes soupirs au monde? Que celui qui soupire porte ses regards vers Jésus-Christ. Jésus garde dans sa passion la même force qui émane de lui, sa vie durant, par laquelle il rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les paralytiques et annonçait l'évangile aux pauvres. C'est parce qu'elle découle d'une force divine que ses souffrances et sa mort ont une action si puissante. La mort de Christ a renouvelé l'histoire du monde. Lorsqu'il s'agit des autres hommes, nous conservons volontiers le souvenir de leur vie, tandis que nous oublions volontiers leur mort. Pour le Sauveur, c'est plutôt le contraire. Sa mort est restée si puissamment gravée dans le souvenir de ses disciples qu'elle est devenue un bien suprême pour le monde entier. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons rien de plus grand que Jésus-Christ crucifié. Peut-être nous est-il difficile de comprendre et d'exprimer par des mots comment le sang de Jésus-Christ peut vraiment nous sauver. Mais nous en sentons quelque chose et nous contemplons avec un ardent désir les souffrances et la mort du Sauveur, cherchant si de cette mort il ne sortira pas quelque chose dont nous puissions vivre. Si pour longtemps encore ce n'est qu'un petit troupeau qui y prend part, la force divine qui émane de la mort de Jésus n'en est pas moins destinée au monde tout entier. C'est une force de pardon, c'est une force qui triomphe de la mort, c'est une force qui fait de nous des hommes nouveaux. Cette force fait mourir notre être terrestre qui n'est que folie et néant. Finalement, Tout ce que nous avons de terrestre s'épanouit et s'évanouit comme la fumée. Et ce que la force de Dieu crée en nous acquiert toujours beaucoup plus de puissance jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, d'abord dans ses enfants et puis aussi dans le monde. De cette mort jaillira une lumière capable d'illuminer le monde et d'amener à une vie toute nouvelle. Chers amis, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Dieu soit loué, nous avons la rédemption. Quel bonheur pour un prisonnier, pour un homme en péril de mort, ce que j'étais moi autrefois, de se dire « Voici le secours, je suis exaucé, je suis maintenant délivré. » Cette joie qui fait tressaillir l'homme tout entier s'empare de nous à la vue de ce Sauveur par qui nous avons la rédemption et nous apercevons le salut. Il est le fort, il est le vainqueur qui peut nous délivrer. Nous gisons là sans force et nous ne pouvons sortir de notre misère. Mais Jésus vient, lui, et il a le pouvoir de nous en retirer. Il est dit par son sang. Pourquoi donc par son sang? La puissance de Dieu n'aurait-elle pas suffi pour nous sauver? Et le sang du Sauveur n'aurait-il pas pu être épargné? Bien des gens pensent ainsi, c'est qu'ils ne comprennent pas le verdict qui est sur nous. Tu mourras de mort, et que nous sommes au pouvoir de Satan, malheureusement, dont nous ne serons affranchis que si nos péchés sont anéantis, et si notre sang est soustrait à la contamination du péché et de la mort. Et voilà donc pourquoi le Père Céleste a dit dans le ciel au Sauveur, à son Fils bien-aimé, « Descends vers la pauvre humanité, car ton sang est pur. Je lui donnerai le pouvoir de rendre la vie et de laver du péché l'être impur de l'homme, et ils revivront eux, les impurs, par toi qui es le pur. » Ainsi le Sauveur est allé vers la mort, parce qu'il est pur. Son sang reste vivant jusque dans la mort. Chaque goutte de notre sang est, on peut dire, entachée de péché, et par là, il est sans vie et sans force. Mais le sang du Christ est resté pur. Aussi le Sauveur a-t-il le pouvoir de laisser sa vie et de la reprendre. Il a la promesse du Père. Il sait que son sang peut affranchir des liens de la mort la race impure des hommes. Ainsi notre sang, au contact du sang de Jésus, reprend espoir. Nous nous écrions « Jésus, aie pitié de moi !» Par ton sang qui donne la vie, aide mon sang criminel. Fais-moi vivre, racheté, purifié, délivré de la mort. Je me donne à toi, oui, je me soumets à toi. C'est ainsi que nous avons la rédemption par son sang. La mort de Jésus-Christ ouvre une nouvelle voie. Elle, on peut dire, inaugure une nouvelle alliance. L'homme purement terrestre n'existe plus. Les plus beaux fruits de l'effort humain avaient mûri sur le terrain de l'alliance ancienne. Mais il n'en était rien résulté pour le monde. Et lorsque, à la fin, Jésus voulut rassembler son peuple, les hommes n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas libérés d'eux-mêmes, rivés à leur orgueil humain, à leur égoïsme humain, et à leurs œuvres humaines. Sur cette voie, on n'arrive à aucun véritable pardon, à aucune injustice, mais plutôt, on peut dire, la nature humaine qui croit, elle croit pouvoir gouverner pour elle-même, c'est ce qu'elle croit. Elle prend donc trop de force. Il faut que tout le tréfonds soit absolument changé. La mort de Jésus bouleverse toute l'économie des pratiques humaines. Chez les chrétiens eux-mêmes, on ne vient à bout de rien, même pas par la plus grande piété et la foi la plus correcte. On croit encore trouver grâce aux yeux de Dieu en se dépensant en vains efforts ou en se retirant du monde et en observant toutes sortes de règles. C'est toujours la vieille méthode, croire ou faire de bonnes œuvres. Cela, c'est encore et toujours l'ancienne alliance. Or, la nouvelle alliance que Jésus veut fonder n'est pas comprise. Voici donc cette nouvelle alliance. Il est dit, je laisse agir Dieu et moi, je me retire. Christ s'efface au profit de Dieu et remet tout à son Père céleste. Sur ce terrain, Jésus veut nous entraîner. Là, les péchés seront pardonnés. Là, ils perdent leurs racines, car la racine de tout péché est dans la séparation d'avec Dieu. La nature humaine n'est pas mauvaise en soi, mais par le fait de sa séparation d'avec Dieu, la pourriture l'envahit, produisant toutes sortes d'horreurs. Si le contact avec Dieu est rétabli, c'est le retour à la santé. Et cela ne peut s'opérer que par le sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, elle vaut seule pour le pardon et pour la délivrance du péché. Qui régnera? Voilà la question que pose le sang de Jésus-Christ. Ce sang crie, règne de Dieu, volonté de Dieu. Car si Dieu domine et impose sa volonté, alors le péché disparaîtra. La sanctification des souffrances et de la mort de Jésus-Christ ne prend son développement qu'après le fait historique de la Passion. Notre histoire ne consiste pas seulement en ce qui est visible extérieurement. Ce qui constitue la grandeur et l'importance de la vie d'un homme, c'est uniquement ce qui en lui peut plus tard être transfiguré. Il en est ainsi tout particulièrement pour Jésus-Christ. Ce qui se développe après sa vie constitue une histoire éternelle qui doit faire irruption dans notre époque, afin que notre histoire terrestre soit démolie et que soit instaurée l'histoire de la vérité qui se fonde uniquement sur la croix et sur la résurrection de Christ. Ainsi se dresse la croix de Jésus-Christ derrière le rideau de l'histoire mondiale. Parfois, le rideau se soulève et l'histoire du crucifié fait irruption dans le monde. Cette histoire, elle vient sur le monde comme un jugement de Dieu. Qui peut persévérer dans le péché quand le rideau se lève et que apparaît Christ le crucifié? Comment un être vain et, on peut dire, éphémère peut-il subsister? Comment peut-il se fier à sa nature matérielle, du soin de lui donner la paix lorsque la croix apparaît? Elle nous contraint, croyez-moi, au silence. Ne nous lassons donc pas de demander ce jugement dans nos prières, car ce n'est pas un jugement qui condamne à jamais, mais c'est un jugement où les pires criminels entendent cette parole qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette croix de Christ, demandons-la pour notre époque, maintenant. Père, permets que le jugement de la croix de Jésus-Christ se manifeste. Permets qu'en ce monde, l'orgueil et l'arrogance soient abattus, que les atrocités du passé ne renaissent plus jamais, que l'humanité bestiale et meurtrière soit vaincue par la force miraculeuse de la croix du Christ qui lance dans le monde ce puissant avertissement qui dit « Arrête-toi, monde orgueilleux, car l'heure de ta fin est venue. » Pour terminer cette étude, chers amis, sachez que en Jésus-Christ viendra à la fin des temps, investi de ce jugement que sa croix constitue, ce sera une grande victoire. Et c'est là que commencera le royaume de Dieu, quand les hommes seront enchaînés, que les peuples en furie ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, que le péché sera contrecarré, que des sentiments plus délicats pénétreront dans les cœurs et que les hommes prendront en horreur ce qui est grossier et qu'ils auront honte de leur silence. Et quand ce jugement de Dieu s'achèvera, quelle victoire! Et nous l'espérons de tout notre cœur, c'est de notre temps que la croix du Christ vaincra. Chers amis, nous terminons donc ici. Nous aurons une très courte prière et je dirai simplement merci au Seigneur, merci au Dieu d'Enoch, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'avoir permis que par le Saint-Esprit je puisse à mon très grand âge faire et de donner et de rendre au peuple de Dieu ce qu'il doit entendre, ce que le Seigneur me donne par l'Esprit Saint pour vous faire entendre. Soyez bénis, car le Seigneur vous aime. Cette prière sera très courte. Prions donc la prière du Seigneur en disant simplement « Ô vous, la plus grande victime tendrement aimée qui êtes aux cieux, nous aimerions que votre saint nom, tourné en dérision, soit sanctifié, que votre volonté soit faite partout, au lieu d'être ridiculisé. Donnez-nous notre pain quotidien qui consiste à faire votre volonté. Pardonnez-nous notre péché de n'attendre de vous que des cadeaux sans tenir votre chagrin, sans le sentir dans nos cœurs. Que nous pardonnions tout aux autres. Oui, que nous soyons conscients de la tentation de penser à vous en oubliant votre tristesse et nous vous demandons, délivrez-nous, délivrez-moi du cauchemar du mal. Amen. Au revoir mes très chers amis, que le Seigneur vous bénisse richement. Oh oui, car il vous aime. À demain matin pour la suite de cette série.